Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio où les micros s'animent et où les échanges prennent vie à chaque instant. Nous sommes en direct jusqu'à 16h30 depuis notre studio. Et oui, ça fait quelques semaines déjà qu'on a réintégré notre studio. Il fait encore assez beau, mais on est quand même là, il y a un peu de vent. Même s'ils annoncent encore pas mal de chaleur ces prochains jours, on va être de plus en plus dans notre studio. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos participants du jour. D'ailleurs, autour de la table, on a énormément de personnes et on a même un public. Hein. On a aujourd'hui Christine qui est présente. On a Émilie, on a Oucha, on a Ours, on a Gaël, on a Marc, on a Suzanne, on a Elvio. Bonjour Elvio.
Bonjour Jimmy, comment allez-vous?
Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Elvio qu'on retrouvera un peu plus tard dans la minute d'Elvio. On a aussi à côté de nous Maxime, on a Séverine et à la technique, nous avons Pascal Vigolo qui nous fait l'honneur de former Luna qui est là pour apprendre et je suis sûr tout va bien se passer. De toute manière, un live sans couac, ce n'est pas un live. Au programme cet après-midi, poésie et écriture avec Oucha qu'on a l'honneur d'accueillir. Bonjour Oucha.
Bonjour.
On aura à la suite la minute d'Elvio. Alors on a hâte de voir un petit peu de ce qu'Elvio va nous parler. On va suivre par un thème proposé par Séverine qui s'intitule « Se libérer par la création » et on terminera par un thème, alors celui-là, chez auditeurs et auditrices et gens qui sont là, qui nous écoutent et aussi public aujourd'hui à Pavillon dans nos studios, proposé par Marc qui s'intitule « L'amitié franco-suisse ». Alors ça, celui-là, je l'attends, je peux dire, il va faire couler de langue. Aujourd'hui, installez-vous confortablement et laissez-vous porter par notre émission que vous retrouverez d'ailleurs dans son intégralité en rediffusion sur notre site pavillonnomade.ch. Oucha, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous avoir ici à Pavillon Nomade. Alors, juste avant qu'on commence cet échange, je vais faire une petite introduction, un petit préambule. Nous allons prendre le temps de parler ensemble d'un univers particulier, celui de la poésie et de l'écriture. Écrire un poème, c'est parfois mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on observe, sur les souvenirs, les rêves, les émotions. C'est aussi une manière de raconter quelque chose de soi ou simplement de laisser parler son imagination. Et pour en parler, merci Oucha d'être avec nous, qui a écrit elle-même ses poèmes et qui a accepté de venir partager avec nous sa passion pour l'écriture et surtout en fin d'échange un de ses poèmes qu'on a hâte de découvrir. Première question, d'où venez-vous et qui êtes-vous?
Ben, je viens de Sion j'habite.
Alors, vous habitez, parce que Sion c'est quand même grand.
Ouais,
vous habitez de quel côté de Sion? Est-ce que vous habitez en dessous
près du, Rhône.
Du château?
Près du Rhône.
Près du Rhône. Ouais, alors on fait de belles balades près du Rhône.
Oui.
Vous y habitez depuis combien de temps?
En fait, à la base, je viens de Réchy. Et je suis en foyer depuis 2013. J'ai fait plusieurs foyers. Et là où je suis. C'est un foyer qui est au centre-ville et puis où il y a une bonne ambiance. C'est pas toujours facile la vie en communauté. Par contre, ce qui est bien, c'est que on essaye de s'entraider, d'avoir beaucoup de respect pour les uns et les autres. C'est pas facile quand quelqu'un va mal parce que souvent c'est la vie en communauté, c'est il y a plus de stimulation, mais les éducateurs essayent qu'on ait une bonne ambiance. Et c'est vrai que... Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est en centre-ville, parce que tous les autres foyers sont souvent dans les banlieues, parce que c'est plus cher
Alors souvent en banlieue, voire même des fois excentré en montagne, parce que on a des foyers Domus pour citer un des foyers, et il est à la Tsuma, c'est carrément perché au haut de la montagne. Comment s'appelle le nom de votre foyer?
Le foyer Maya.
Le foyer Maya. Alors on profite de saluer le foyer Maya qui nous écoutera peut-être en différé, ou je ne sais pas, est-ce que vous les avez avertis que vous alliez participer à l'émission? Eh bien c'est pas grave, vous leur direz qu'ils pourront réécouter l'émission sur pavillonnomade.ch. On les salue, on leur remercie aussi pour le travail qu'ils font, parce que de pouvoir arriver et venir dire « moi je me sens bien là-bas, on s'y sent bien, on rigole, ils font des choses pour nous », bah tant mieux. Revenons un petit peu au vif du sujet. Depuis quand écrivez-vous des poèmes, Oucha?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai à la base, je voulais faire des études. Et les difficultés sont arrivées. Et j'avais eu des hauts et des bas. Et puis, pour me soigner, j'ai commencé à écrire. Bon, écrire, c'est une passion qui m'accompagne depuis que je suis toute petite. Bon, quand j'étais aux études, je n'avais pas trop le temps d'écrire parce que j'avais les devoirs, les examens, étudier. Et là, quand j'ai tout arrêté du jour au lendemain, eh bien, j'avais eu du temps. Et c'est quelque chose qui a évolué. Et je pense que ce qui est très important pour l'écriture, c'est que ce soit un poète ou un écrivain, il écrit que ce qu'il vit. On ne peut pas écrire ce qu'on ne vit pas. C'est très important pour parce que c'est aussi une façon aussi de soigner. En tout cas, moi, ça me permet de me soigner et de... De mettre de la beauté, que ma souffrance ne soit pas... Enfin, aucune souffrance n'est vaine. Il y a toujours un cadeau derrière. Mais dans le sens que c'est pour vraiment faire quelque chose de beau, me libérer, et puis, montrer, faire de la beauté au monde et partager avec les gens, parce que je trouve que c'est toujours, ça fait du bien. Et j'ai remarqué aussi que parfois, quand je montrais mes poèmes à certaines personnes du foyer, ça leur faisait aussi du bien.
Eh ben, merci déjà pour cette entame. On voit que ça fait réagir autour de la table. On a une première question, Elvio.
Oui, Usha, j'ai eu la chance de découvrir que vous étiez quelqu'un de multi-artistique. Multi-artiste. Quelles sont vos autres passions artistiques?
Par exemple, j'adore l'aquarelle, le dessin, écrire des histoires, écrire des poèmes. Et ce que je fais, c'est que je fais des marpages et des cartes. Et puis, des livres, bien sûr. Et comme je travaille dans un copé-service à Martigny, je peux moi-même faire mes livres. Les maquettes, c'est pas facile de faire une maquette. Les MSP m'aident. Et j'ai récemment sorti un livre qui s'appelle La pointée de lumière, qui est en vente à la liseuse à Sion. Et j'ai fait aussi des cartes et des marpages, justement, qui sont aussi en vente à la liseuse à Sion.
Merci. On a aussi une question que Christine aimerait vous poser. Bonjour Christine.
Oui, bonjour.
Ça fait plaisir de vous retrouver à Pavillon Nomade. Vous êtes une habituée de l'émission. Comment vous allez ?
J'adore l'émission.
Alors pensez à bien vous équiper près
je
du micro.
Je vais bien. Pour la première fois depuis longtemps, quand je me fais hospitaliser, c'est une hospice de demande de moi. Parce que moi, je vis dans un foyer catastrophique où les gens hurlent, on ne peut pas dormir la nuit, on doit faire la vaisselle, le ménage et tout. Et comme j'avais mon livre à écrire, je n'avais pas le temps de faire tout ça. Donc, j'ai pris des congés pour faire mes aquarelles pour ma future exposition. Mais moi, ce qui m'intéressait chez vous, c'est votre origine.
Je suis d'origine indienne.
Des Indes.
Oui, j'ai été adoptée à 2 ans et demi.
Calcutta ?
De Ranchi.
Je ne connais pas.
C'est entre... en fait, l'ancien nom de... Avant, la ville s'appelait Benares. Maintenant, ça s'appelle Varanasi et Calcutta. Et du coup, Ranchi, c'est une ville entre Benares et Calcutta. C'est nord-est. Et puis, on parle justement, c'est proche du Bengale. Et comme l'Inde, c'est un pays où il y a des multitudes de langues, eh bien, on parle hindi. Et aussi le Bengali.
Ah. Et nous, quand on avait 15 ans, on avait des foulards qui venaient tout droit de Bangladesh.
Ah ouais, et les foulards de toutes les couleurs. D'ailleurs, tout à l'heure, en début d'échange, vous avez dit, j'avais envie de faire des études. Est-ce que les études que vous vouliez faire avant que votre vie, vous l'avez construit autrement, vous avez dit, je travaille, c'est très intéressant parce que copy service, effectivement, c'est productif et c'est un travail. D'ailleurs, on salue l'équipe aussi de là-bas qui font un travail exceptionnel. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier poème et surtout de ce qui vous a donné envie d'écrire? Ah non, ça c'était, ça y est, vous voyez, comme quoi des fois on s'embrouille un peu dans les lives. Je reviens, ça c'est la question d'après, qui est mon cerveau au fil du temps. Ma question initiale c'était, vous vouliez faire quoi comme étude ? Est-ce que c'était dans le domaine de l'écriture déjà, dans le domaine littéraire ou pas du tout ?
En fait, la vérité c'est que je voulais faire des études pour avoir de la valeur. C'est ce qui est assez, parce que j'ai eu une histoire difficile et je voulais montrer que j'étais capable, que j'étais capable, que je pouvais avoir quelque chose dans le ventre, que je pouvais montrer aux autres que je valais quelque chose. Et en fait, ce qui me faisait vibrer le plus, c'est apprendre. Parce que moi, me concentrer sur les études seulement sur un thème, j'aurais pas supporté. Moi, j'aime apprendre et avoir un savoir éclectique. Et je trouve que souvent, les études, c'est trop, c'est trop spécialisé. On n'a pas la vision du monde global. Et souvent, dans les sciences, justement, une avancée peut justement le faire grâce à un autre domaine.
Donc, on pourrait dire qu'avec tout ce que vous nous expliquez, qu'on pourrait en faire tout un poème, hein, finalement. Par contre, vous avez parlé, j'aime apprendre. Comment vous avez appris à faire de la poésie ?
Eh bien, en fait, j'ai appris tout seul, peu de seul. C'est, en fait, c'est la créativité, et la créativité, c'est un souffle. Et quand j'ai cette créativité, ce souffle, eh bien, j'écris. J'écris pour me soulager. Je peux écrire quand je suis bien. Je peux écrire quand je ne suis pas très bien. Et justement, par exemple, si je peux citer le célèbre psychiatre Boris Cyrulnik, je l'ai fait sans du tout avoir appris ce qu'il disait. Hein. Mais ce qu'il disait aussi, c'est qu'une personne qui a un traumatisme, l'art, c'est très important. Et j'ai l'impression que je ne connaissais pas ce qu'il disait, rien du tout. Mais j'ai l'impression que le fait de faire de l'art, c'est venu instinctivement chez moi. Parce que j'aime le beau, j'aime ce qui fait vibrer, j'aime ce qui peut faire du bien à l'âme.
Merci. Elvio ?
Oui, alors je vais vous demander, au niveau de vos sources d'inspiration, d'autres poètes ou écrivains, vous pouvez nous citer lesquels ?
Je n'ai pas de source d'inspiration d'écrivain. En fait, il y a deux façons d'écrire un poème. C'est soit en vers, soit en prose. Le vers, justement, c'est des rimes. Et il faut que ça rime, comme les chansons. Les chansons, c'est obligé que ce soit un rime, parce qu'il y a des rythmes. La chanson, c'est un rythme. Et du coup, voilà. Moi, je fais de la poésie en prose. Et la prose, j'ai l'impression que c'est plus difficile que les vers, justement, parce qu'on doit former des phrases pour que ce soit poétique, justement.
Merci. Je me posais la question aussi, hein, parce que c'était la question au niveau de comment on s'inspire. Est-ce qu'il y a des moments ou des situations qui vous donnent davantage envie d'écrire ? Ou est-ce que c'est simplement un moment où vous êtes là, un instant T, puis vous dites, bah voilà, là j'ai envie d'écrire ? Ou est-ce qu'il y a des situations, des moments plus propices à l'écriture ?
Par exemple, quand je suis en souffrance, quand je suis triste.
Non, allez-y, c'est pas grave.
Quand je suis triste, quand j'ai envie de me soigner, eh bien, j'écris. Je pose des mots doux, des beaux mots sur ma douleur. Et j'essaye de faire qu'elle soit belle et que bah, cette souffrance, eh bien, devienne le socle de la beauté.
Ben merci. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parte un court instant avec le texte que vous nous proposez aujourd'hui, et puis on partira aussi à la rencontre du texte que Christine a envie aussi de proposer, vu qu'on est à l'écriture, et puis on regardera un petit peu ce que ça a suscité chez nos participants du jour, après vous avoir écouté. On vous écoute.
Karuna, une tristesse qui veut en soulager une autre. Tel était le destin de nos ancêtres et le chemin à suivre pour les siècles à venir. Dans le noir, la pluie tombe. Tombe son bruit, presque inaperçu. Mais dans mon cœur, une immense tristesse s'est infiltrée et m'inonde. Une tristesse, oserais-je dire, normale. Une tristesse qui ne m'appartient pas et qui appartient à un petit ange que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup aidée. Que dire ? Que faire ? Le temps passera et avec elle la douleur. Ce n'est pas facile de voir quelqu'un triste alors qu'on l'aime beaucoup et qu'on le respecte profondément. Je n'ose voir, mais au fond de moi, cela résonne tellement, comme le dernier adieu. Ah, si cela pouvait se passer plus tard, mais il n'en est rien. La douleur est là, elle restera. Mais n'oublions pas, le cadeau de la vie qui nous élève et nous donne des ailes. Il se trouvera un jour où l'Éternel se révélera et nous donnera un nouvel élan. Un élan de grâce et de majesté. Car si les adieux sont douloureux, les bonjours ne se feront pas tarder. L'être aimé part, mais rassemble, comme un cadeau éternel que la vie nous donne. La vie est éternelle. Sur terre, elle n'est que passager. Mais dans les minutes des mondes, elle demeure aussi forte que le soleil à son zénith. Et peut-être que cela nous donnera une nouvelle saveur à notre vie. Elle est belle, belle et encore belle. En sanskrit, la tristesse et la compassion, c'est le même mot qui se dit Karuna. Le fait de vouloir soulager la tristesse de l'autre car on l'aime. Mais la souffrance est mère aussi de beaucoup de choses. Elle est la racine de merveilles infinies et qui relie les hommes et les femmes en leur être le plus profond. Ne l'oublions pas. L'amour triomphera de tout.
Bravo! Alors, je ne sais pas autour de la table qui a envie de rebondir. Suzanne. Alors, Suzanne, le temps qu'on vous équipe d'un micro.
Moi, j'aimerais vous demander, vous dire, à vous lire, vraiment, c'est d'une tristesse insondable. Et je me demande comment vous pensez parvenir. Parce que vous êtes encore dans cet actuel, ou bien comment vous pensez voir la joie et le bonheur après ça?
En fait, c'est une façon où je commence toujours, souvent, mes poèmes pour me libérer. Et après, comme je dis, c'est la joie qui vient. Et je dois dire que après avoir écrit ce poème, j'étais mieux parce que c'était pas c'est triste au début parce qu'il faut sortir la tristesse parce que sinon c'est difficile et il faut que ça sorte. Mais après, les mots soignent et ça finit toujours bien parce que la vie est juste et bienveillante et elle nous fait du bien. Et si on a des épreuves dans la vie, c'est justement pour nous faire grandir et nous élever vers le ciel.
Merci en tout cas de cette réponse, Christine. Alors, est-ce que vous avez d'abord une question à poser encore à Ocha?
Je trouve magnifique. Moi, j'ai entrepris un travail d'aquarelle avec une artiste là, il y a 6 mois à la Maison de Culture. Et quand j'avais fini mes aquarelles, elle m'a demandé si elle pouvait les utiliser pour un livre. Je lui ai dit oui. Et quand elle est arrivée à Marseille avec les aquarelles, son prof lui a dit « il faut aller interviewer cette dame et faire un livre ». Donc le livre est là et j'ai sélectionné un texte des femmes suisses des années 1970 qui manifestaient pour le droit de vote en Suisse. On était les derniers d'Europe à ne pas avoir le droit de vote en Suisse. Et cette dame est venue l'année passée faire une conférence pour dire l'égalité homme-femme n'a pas évolué. Et ça, c'est le texte qu'elle chantait dans les rues quand elle voulait l'égalité. Mais par contre, moi, je suis plus par la peinture. Mais effectivement, que j'ai des peintures des fois très sombres. Et celles-là, je ne les garde pas. Et j'ai des peintures, j'ai des aquarelles qui sont beaucoup plus lumineuses et que j'aime beaucoup mettre dans ma chambre. Je suis aussi dans un foyer, donc j'aime bien avoir mon espace.
Et Christine, est-ce que comme à l'instar d'Oucha, quand elle écrit, ce qui se passe en elle, elle les sort, que ça lui fait du bien, ça, vous avez parlé, ça vous soigne. Est-ce que de le faire aussi au travers de la peinture, vous vivez le même process ou pas?
Mais à travers l'interview déjà, ça a été très fort. Et on a développé une sororité avec mon amie qui est incroyable. Et ça m'a déjà sorti mon livre, il est posé là devant moi et ça veut dire que je peux recommencer une nouvelle vie.
Ouais. Alors en tout cas, vous êtes source d'espoir, hein, parce que c'est vrai qu'on peut souvent, les textes, les poèmes sont souvent des fois tristes, mélancoliques, parce que ça fait un peu partie peut-être des fois des écritures hein, en général, mais ce que je trouve beau dans votre écriture ou dans ce que vous partagez, mesdames, c'est que de prendre le temps d'exprimer, d'extérioriser les choses font que ça permet déjà de faire un bout sur la reconstruction de soi. Hein. Vous avez cité tout à l'heure Boris Cyrulnik, hein. Certainement peut-être que c'est déjà un pas de la résilience ou en tout cas le cheminement. Suzanne.
Moi je dirais, il faut que ça reste la joie. Il faut que l'intérieur joyeux, quand la souffrance s'amenuise, eh bien, il faut que cette joie puisse rester. Parce que sinon, c'est dommage. Après, il revient un peu de tristesse et rebelote, on réécrit. Non,
Christine ? Non, là, j'ai mis tout le positif, tout le négatif, tout ce que j'ai vécu. Et là, je tourne la page et je pars vraiment heureuse et joyeuse avec mon cœur.
Oucha, et après, on donnera la parole à Marc. Oucha.
En fait... Ça, j'ai écrit ce poème parce que je vais écrire un poème. Mais par contre, des poèmes, j'en ai beaucoup des poèmes. Et il y a beaucoup de joie. J'ai choisi celui-là parce que c'était le dernier que j'ai écrit. Mais il y en a plein des poèmes. Et il y en a même, enfin, je veux dire, j'ai pris celui-là. Mais des poèmes de joie, il y en a plein.
Oui, ça c'est vrai, j'en suis sûr aussi. D'ailleurs, j'aurais une question à ce sujet-là. Marc ?
Moi, je veux juste féliciter Oucha. Et en fait, ce qu'elle fait, je trouve ce qui est beau et c'est aussi thérapeutique, c'est qu'elle mettre des mots sur la souffrance, c'est déjà commencer à guérir. Et c'est thérapeutique, que ce soit par les poèmes, la parole ou par des entretiens avec des infirmiers, des médecins, des proches. Des professionnels, mais aussi soi-même, c'est-à-dire qu'on peut commencer à entreprendre une guérison en mettant des mots sur sa souffrance et puis qui vont obligatoirement nous amener à plus de joie par la suite.
Par la suite, oui.
Ouais, par la suite, d'accord avec vous. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse à Christine l'espace d'un court instant nous lire le texte qu'elle a de son livre, qui s'intitule d'ailleurs le livre.
Le livre s'intitule La Fée Fleur.
La Fée Fleur. Alors, on vous écoute.
Nous qui sommes sans passé, les femmes qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Seules, dans notre malheur, les femmes l'une et l'autre ignorées. Ils nous ont divisées, les femmes et nos sœurs séparées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons, nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, nous les femmes opprimées, ensemble, révoltons-nous. Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissant notre forme, les femmes, nous deviendrons des milliers. Debout, les femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout.
Merci Christine, merci.
Mouvement de libération des femmes.
On a été un peu rapide.
L'hymne des femmes.
Pardon Christine, bravo, merci. Petite question à vous pour aller gentiment à la fin de notre échange. Si vous deviez conseiller à quelqu'un qui aurait envie d'écrire des poèmes, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Je lui dirais... Ah bon, je dirais de ressentir au plus profond de lui ce qu'il a. Ah oui, et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que je n'écris pas que des poèmes pour me soigner, triste, mais aussi des poèmes de joie.
D'ailleurs, est-ce qu'on peut retrouver, est-ce que vous avez l'envie de publier un livre ? Est-ce qu'on peut retrouver quelque part déjà vos poèmes ou c'est en avenir ?
C'est en avenir. J'ai un livre qui s'appelle « La pointille de lumière » et un site internet www.colis.ch. Et ça, c'est un site internet que mon frère a fait.
Comment vous écrivez Colis?
colys.ch. Et puis, ce que je voulais aussi, ce que je vois que. On pense, est-ce que. Enfin, j'ose. Lire un deuxième poème de joie.
Alors, on va le garder peut-être en fin d'émission si on a encore un peu de temps pour ça. Ou sinon, les gens ont pu entendre qu'il y a sur www.colis.ch, on peut déjà aller à votre rencontre de votre univers et qu'en devenir, il y a la préparation d'un recueil de tous vos poèmes. On retrouvera autant les poèmes de joie, de tristesse ou tout ce que vous avez écrit. Elio, une dernière question avant qu'on passe, parce que le temps file. On va devoir rattraper pas perdu, parce que c'est jamais perdu le temps ici à Pavillon Nomade. Mais dernière question.
Alors, c'est pas une dernière question, c'est quelque chose de très lucide de Michel Simon. Il est dans une interview pour la ORTF le 27 septembre 1965. Je le cite, « Ce qui aurait pu sauver l'humanité, je crois, c'est peut-être la femme, parce qu'elle est encore en contact avec la nature. Elle échappe aux lois et aux imbéciles émises par des anormaux. Elle est encore en contact avec la nature, mais elle n'a pas voix au chapitre. » Et ça, c'était en 65.
Et ça, c'était en 65, Manessi. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager votre univers avec nous, Usha. À travers les mots, on découvre que la poésie peut être bien plus qu'un simple assemblage de phrases et de rimes. Elle peut être une façon de s'exprimer, de transmettre une émotion, de raconter une histoire ou simplement de laisser une trace de ce que l'on ressent à un moment donné. Et finalement, peut-être que la poésie nous rappelle une chose importante. Chacun possède des histoires à raconter et parfois il suffit simplement de trouver les mots pour les faire entendre. On a vu différents textes. C'est un peu comme une famille. C'est pour ça que je vous propose qu'on se quitte un court instant après la chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'intitule « Famille ».
Crever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, mais tout ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir, bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image, et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille. Bien plus que celle du sang, des poignées de secondes dans cet étrange monde qu'il te protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Tu crois pas à grand chose, ni c'est à toi. T'es du parti des perdants, consciemment, viscéralement. Et tu regardes en bas, mais tu tomberas pas tant qu'on aura besoin de toi. Et tu prends les bonheurs comme grain de raisin, petit bout de petit rien. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Oh, tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qu'il te protège si longtemps.
Retour sur les ondes de Pavillon Nomade après cette magnifique chanson de Jean-Jacques Goldman, parce qu'on est une famille, nous ici aussi à Pavillon Nomade. D'ailleurs, je salue tous nos chroniqueurs, tous nos techniciens, tous nos animateurs, co-animateurs et ceux qui sont aussi dans l'ombre, qui font vivre ce magnifique projet. On se retrouve quelques instants après le jingle de la Minute Delvio.
La Minute Delvio.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film complètement barré du début à la fin, qui se prénomme Bugonia. On sait que les abeilles en prennent cher avec les conditions climatiques annuelles. Par contre, nous ne savons pas que derrière tout ça, il y a des apiculteurs, apicultrices, avec des théories du complot bien farfelues. Imaginez que vous êtes convaincu que les extraterrestres sont parmi nous et que plutôt que d'appeler les autorités, vous décidiez de mener vous-même l'enquête. Parce qu'après tout, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Dans Bugonia, deux apiculteurs sont persuadés d'avoir découvert un complot extraterrestre, se mettre en tête qu'une personne très importante pourrait bien être une alien venue préparer la fin de l'humanité. Oh, rien que ça. Leur solution ? L'enlever pour lui faire avouer la vérité. Oui, c'est exactement le genre de plan qui commence par « on a tout prévu » et qui finit généralement par « oups, ouf, tout ça n'était pas prévu en fait ». Parce que face à eux, une femme d'affaires particulièrement déterminée qui n'a absolument pas l'intention de se laisser convaincre qu'elle vient d'une autre planète, s'ensuit alors un face-à-face aussi tendu qu'absurde où chacun est persuadé d'être le plus rationnel de la pièce. Le film joue constamment avec un questionnement délicieux, délicieusement dérangeant, mais qui est vraiment fou, qui dit vrai et surtout qui a complètement perdu le mode d'emploi de la réalité. Entre paranoïa, humour noir, théorie du complot et situation complètement improbable, Bugonia transforme une histoire d'invasion extraterrestre en une sorte de séance de thérapie collective qui aurait très, mais alors très très mal tourné. Bref, Bugonia, c'est les extraterrestres arrivent, mais racontés par des gens dont on ne se demande constamment s'il faut leur donner raison. Ou est-ce qu'il faudrait peut-être leur offrir une longue thérapie chez un psy ? Bon visionnage.
Alors, merci Elvio pour cette magnifique chronique sur les abeilles aussi, on pourrait dire. Hein. Alors, je ne sais pas si réellement on parlait de butinage, on parlait de...
Spoiler, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment un film qu'il faut voir si vous aimez l'humour noir, si vous avez cette sensibilité par rapport à la nature, si vous pouvez imaginer que des apiculteurs pourraient devenir les vengeurs de l'espèce humaine.
Les Vengeurs de l'espèce humaine. Moi, le seul film que je me souviens sur les abeilles, c'était Maya l'abeille. Alors, ça remonte il y a long. Alors, est-ce que quelqu'un avait déjà eu vent de ce... Rappelez-nous le titre, Elvio.
C'est Bugonia.
Bugonia. Est-ce que vous avez déjà entendu? Est-ce que vous avez... Il sort actuellement ou il est...
Alors, il est sorti en fin d'année. Et maintenant, il est en VOD. Il est... On peut l'avoir actuellement à domicile et tout. Donc, voilà.
Alors, allez découvrir cet univers. Et si vous avez eu l'occasion de le voir et de venir faire un petit retour ici à Pavillon Nomade, n'hésitez pas à nous retrouver. D'ailleurs, pour tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, vous êtes tous les bienvenus à Pavillon Nomade tous les jeudis de 15h30 à 16h30 en direct et proposer et échanger autour des thèmes. En parlant de thèmes, pour gagner un petit peu de temps et de minutes, on va se tourner près de Séverine. Alors Séverine, on va l'équiper d'un micro. Voilà. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? C'est la première fois que vous venez ici à Pavillon Nomade.
Oui, je découvre. Donc je suis Séverine Tête et je suis infirmière. Ces derniers mois, j'ai fait plusieurs remplacements sur l'hôpital et je découvre aujourd'hui voilà, la partie socio-culturelle, dont le Pavillon Nomade.
Merci, bienvenue. Merci d'être avec nous. On a parlé tout à l'heure un peu de la créativité à travers les mots, à travers la construction de poèmes, de textes. Vous nous proposez un thème qui s'intitule « Se libérer par la créativité ». Finalement, qu'est-ce qui vous a fait vous donner envie de parler de ça aujourd'hui à Pavillon Nomade ?
Alors, j'avais envie d'évoquer ce sujet parce que, comme vous l'avez compris, donc, je fais un métier où j'accompagne les gens dans leur parcours de vie, que ça soit dans différentes spécialités médicales. Et c'est un métier de service. Et pour me régénérer, m'apaiser, je me suis penchée pas mal sur le fait de trouver comment se libérer. Et j'ai découvert voilà, que via la création, et on l'a vu tout à l'heure avec Oucha et puis Christine, il y a l'écriture, mais il y a aussi toute la partie artistique. Et voilà, j'avais envie d'évoquer ce sujet avec vous parce que je trouve que ça apporte un bien-être et c'est très large pour pouvoir découvrir un petit peu notre personnalité à travers d'autres choses.
Ben merci déjà pour ce préambule. Est-ce que vous créez vous-même des choses ?
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous créez ?
Alors, j'ai deux choses différentes. J'adore découvrir différents arts. Je peux faire de la mosaïque, de l'écriture. Et puis, j'ai une petite boîte secrète. Je crée de la cosmétique. En lien avec plusieurs passions de mon parcours de vie.
Alors, en parcours de vie, créativité, vous êtes soignante, vous êtes infirmière. Moi, quand j'entends créativité qui permet de se libérer, de peut-être retrouver corps en soi, ça ne peut pas me faire penser à autre chose que l'ergothérapie. Hein. Est-ce que, qu'est-ce qui fait que vous ayez choisi finalement la voie du soin médical que plutôt peut-être celui de l'art-thérapie ou de l'ergothérapie qui permet d'associer un peu plus créativité et reconstruction ?
Je suis fille d'infirmière et d'agriculteur et pour moi c'était voilà, une voie qui me parlait et puis en maturant, en découvrant la vie, c'est plutôt comme ça que j'ai découvert les différentes formes d'art. Et la cosmétique à moi me parle parce que c'est un lien entre la nature, la culture des différents pays que j'ai pu découvrir au travers de mon métier et le prendre soin de l'autre autrement.
Eh ben merci. Alors, je ne sais pas autour de table comment résonne ce petit échange qu'on a eu avec Séverine, que je remercie d'ailleurs, au niveau de se libérer par la créativité. Qu'est-ce que ça représente pour vous, se libérer par la créativité ? Alors, on a autour de nous, de la table, on a aussi des invités et puis on a aussi des participants qui n'ont pas encore pris. Maxime, bonjour. Le temps qu'on vous équipe aussi d'un micro. Maxime, bienvenue à Pavillon Nomade. Quand on parle de se libérer par la créativité, qu'est-ce que ça évoque chez vous ?
Pour moi, c'est... Comment dire ? Bah, ça peut être beaucoup de choses. On peut se libérer par nos émotions, par les choses qu'on a vécues. Ça peut être une forme de délivrance. Généralement, ça peut être aussi beaucoup de frustration. De travail sur soi-même, d'apprentissage, de pas lâcher prise, de se motiver, etc. C'est un énorme travail en soi. Puis ça prend beaucoup de temps et on va dire de courage aussi de se lancer dans ce genre de métier, de vouloir progresser et puis continuer à découvrir tous les différents styles possibles d'art. Puis il y a tellement de possibilités que je pense que tout le monde peut trouver sa façon à soi d'exprimer sa créativité.
Et la vôtre, c'est laquelle, Léon ? Parce que finalement, vous dites, tout le monde a différents styles. Votre style, ce serait lequel ?
Moi, je passe par beaucoup de choses. La peinture, le dessin, que ce soit sur tablette, donc... comment on dit, tactile ou par papier. Il y a aussi quand on utilise de l'argile pour créer des choses, etc. Puis ça peut être aussi comme le pixel art, les perles à repasser, ça peut être... en fait, on peut passer par plein de choses. Ça peut aussi être créer ses propres vêtements, la couture... puis je crois que j'ai un peu généralisé.
Vous êtes un porteur en tout cas de beaucoup, beaucoup de possibilités. Vous avez une imagination qui est très grande et j'espère que vous prenez autant de plaisir dans ce que vous créez ou pas. Elvio.
Alors Maxime, j'ai eu la chance de découvrir quelque chose tout à l'heure en venant vous trouver au Muguet. C'est que vous aviez un certain talent pour un certain style de bande dessinée. Alors pouvez-vous nous en parler ?
J'essaye encore de trouver mon style. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Moi, je pense que facilement, ça m'a pris 5 ans pour encore à peu près me retrouver dans mon art. Je suis passé par beaucoup de mimiques, de copies, d'essayer de redessiner certains styles d'artistes que j'aimais beaucoup, etc. Avec le temps, ça m'a permis d'expérimenter plusieurs styles de dessin, etc., de beaucoup de séries animées, d'univers différents. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je me retrouve toujours à adorer ce genre d'univers et à créer des personnages qui vont dans ce genre d'univers, etc. J'ai un style un peu plus, c'est vrai, un peu plus manga, etc. C'est là où je me repère le plus. Mais j'essaye encore de creuser.
Merci. Et est-ce que vous avez déjà un titre pour votre futur BD ou pas ? Parce que des fois, les gens... moi, j'ai un ami qui faisait de la BD. Il commençait, c'est d'abord Jean-Philippe Calongi, d'ailleurs, un jeune voix. Il commençait toujours au départ par trouver le titre de sa BD avant de dessiner.
Alors, je ne suis jamais vraiment parti sur des bandes dessinées. Ça a toujours été plus créer des personnages ou... des créatures, etc., assez extraordinaires. Après, un concept que j'aimerais bien que je voudrais quand même partir et découvrir, ce serait créer mon propre compte Instagram ou TikTok ou quelque chose comme ça, dans lequel je pourrais montrer mon art et trouver mon public.
On aura l'occasion peut-être de vous inviter une prochaine émission quand vous aurez mis tout ça en place et on pourra parler un petit peu de comment vous avez créé ça et comment où vous en êtes et comment on pourra vous suivre sur ces pages. Merci en tout cas Maxime d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur Pavillon Nomade. Émilie, vous avez rejoint notre table, vous étiez partie un court instant. Vous aussi, quand on vous dit se libérer par la création, qu'est-ce que ça évoque chez vous ?
Alors, moi, j'aime bien la pyrogravure. C'est pas vraiment de la création, mais pour moi, écouter de la musique, c'est thérapeutique quand je me reconnais dans les paroles ou comme ça. J'aime bien l'écriture aussi, écrire mes pensées. Surtout, enfin, c'est compliqué quand je vais pas bien, mais j'essaye d'écrire. Sinon, j'aime bien faire des bracelets. Bravo Maxime.
Oui, on peut lui dire bravo. D'ailleurs, pour nos auditeurs, auditrices qui nous regardent, ils ne voient pas, vous avez effectivement plein de bracelets à vos poignets, oui, de toutes les couleurs. C'est vous qui vous les avez fait déjà ou c'est des cadeaux ou
C'est moi qui les ai fait. Celui-là, c'est Maxime justement qui l'a fait.
Ah, c'est pour ça que vous le disiez bravo, si vous étiez pas par rapport.
Je disais bravo d'avoir parlé aussi. Ça me fait plaisir qu'elle soit venue avec moi. Et voilà, d'autres questions.
Voilà, Usha.
Quand tu dis des mangas, moi je connais un peu l'histoire du manga parce qu'en fait c'est un univers qui est né au Japon. Et faut savoir que au Japon, enfin en tout cas, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Il y avait les Alliés, l'Axe, et du coup les Japonais faisaient partie de l'Axe. Ils sont partis de la guerre. On savait qu'il y avait des bombes atomiques. Hiroshima et Nagasaki, qui ont fait beaucoup de souffrances. Et ça a été quelque chose de très radical. Les Japonais, ils ne voulaient pas arrêter de la guerre, ils ont tout arrêté. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que cette souffrance s'est imbibée dans l'eau. Dans l'eau, etc. Et l'eau a une mémoire. Et en fait, c'est la souffrance des gens qui sont imbibés. Et en fait, le manga, justement, il est né après les guerres mondiales. Et du coup, c'est beau dire que la souffrance qu'ont souffert les Japonais, ça a été presque le moteur et d'un nouvel élan artistique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours une souffrance derrière l'élan artistique. Et du coup, le manga a pu apparaître comme ça. Après, je ne connais pas vraiment la... Il y a beaucoup de styles de manga différents. Surtout, je ne connais pas tous les mangas. Mais ce que je connais, c'est le célèbre animateur Hayao Miyazaki, qui justement fait des mangas justement, qui sont des personnages assez stéréotypés. Et du coup, il avait dans ses films, justement, il passait justement ses colères, ses émotions dans ses films. Si on voit le film Princesse Mononoké, c'est passé le Moyen-Âge japonais, dans un univers justement qui est tellement actuel. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est une crise climatique, urgence climatique, et c'est exactement ce qui se passe dans Mononoké. On rase les arbres justement pour l'industrie, et du coup, la forêt se protège par des grands dieux, justement animaux, et du coup, il y a beaucoup de violence, oui, mais c'est un personnage en colère. Hayao Miyazaki était en colère. Et du coup, peut-être qu'au lieu de passer la colère en faisant faire de la violence, il a canalisé justement cette colère, ça peut être justement en mettant, en fait, en voulant passer un message et en mettant au monde un très beau film, justement, parce que il a été c'est beaucoup de succès.
Je crois qu'il a été prisé aux Oscars, d'ailleurs, hein, il me semble, Elvio.
Oui, tout à fait. Mais c'est pas le premier film.
C'est pas le premier film. Le premier, c'était
le tout premier film qu'il a fait. C'était un film qui était inspiré des Sept Samouraïs. En fait, la toute première animation auquel il a participé, ça s'appelait Sherlock Holmes. Les plus vieux d'entre nous s'en souviendront. C'était des chiens qui étaient animés, voilà, exactement. Et il a fait la première saison, en fait, voilà. Et il a participé encore antérieurement à deux autres projets qui s'appelaient Heidi, la petite fille des montagnes en 75, et puis en 76, Belle et Sébastien en version tout animation japonaise.
C'est pour ça qu'on a peut-être ces yeux qui ne clignent pas du tout dans ces dessins animés. C'était quelque chose de très représentatif des mangas. Hein. C'était des grands yeux et avec la fin.
Alors, pas du tout. Si vous regardez les premiers mangas que personne n'imagine que c'est des mangas, genre il y a Maya l'abeille par exemple.
Alors,
c'est
oui,
des studios d'animation, oui. tous ces vieux dessins animés, nous qui sommes nés dans les années 70, qu'on a connus, en fait, représentaient plutôt des figurations européennes. Le style avec les grands yeux des shonen et puis des seinen et tout ça, c'est un style
ou
vraiment.
Ou Dragon Ball.
Dragon Ball, voilà, c'est vraiment un style qui est né avec ses grands yeux dans les années 80.
Ok.
Voilà.
Ben, merci pour ce partage. Je propose qu'on se quitte après un court instant. Alors, rien à voir. Je ne sais pas si le terme Osuri, finalement, est en lien avec le Japon, mais je n'y crois pas. Je pense que le nom d'un artiste qui s'intitule Osuri et la musique s'intitule Avant de partir.
Avant de partir, je voudrais voir la fin, devenir un vieux mot qu'on vire des dicots, voir que l'eau potable soit sur toutes les tables, jusqu'en Éthiopie, fini l'utopie. Avant de partir, j'aimerais voir un jour au pied des grandes tours, comme à la Défense, moins de différence, des vies sous les dalles, souvent sans défense, des bouches crèvent la dalle. Je cherche le génie, j'ai besoin de lui dans ce monde incertain. Où se trouve cette lampe, le monde est en sang. Je n'ai plus les mots à mettre sur nos mots. Avant de partir, je voudrais abolir le mot dépression de la population, revenir en arrière, modifier le glossaire du petit Robert, stopper ce calvaire. Avant de partir, j'irai faire barrage, saboter l'aiguillage, quand peux plus sourire, t'éloigner des rails, quand ta vie déraille, quand tout est trop lourd, quand t'appelles au secours. Je cherche le génie, j'ai besoin de lui dans ce monde incertain. Dis-moi là-dedans où se trouve cette lampe. Sans mère, une vie au goût amer. Avant de partir, je veux la faire sourire. Je l'appellerai maman, je veux pas faire semblant lui dire une fois merci de m'avoir donné la vie. Avant que tu partes, je veux trouver les mots. Papa, t'étais là quand j'étais ado. Tu te cassais le dos, les bras sur le balai, prêt à tout lâcher, t'as jamais flanché. Je veux pouvoir te dire que je te dédie ce poème. Une fois dans ma vie, enfin te dire je t'aime. Je cherche le génie, j'ai besoin de lui dans ce monde incertain. Dis-moi là-dedans où se trouve cette lampe. Le monde est en sang, je n'ai plus les mots à mettre sur nos mots. S'il te plaît, réponds-moi, dis-moi où tu es. J'ai besoin de toi, j'ai encore la foi. Le temps est compté, on a tous des souhaits. Tu as du boulot pour un monde nouveau. Et avant de partir, je dirai aux petits que la bonté est plus rare que l'or dans ce pays, qu'ils ont toute la vie devant eux pour rendre le monde merveilleux. C'était au sourire. Souhait. Plein la tête, merci.
Au souris, chanson qui s'intitule Avant de partir. Alors, une chanson que je ne connais pas du tout l'artiste, je ne connaissais pas du tout l'univers. En tout cas, un univers où on sent qu'il y a de la rage en lui, où il y a des revendications. Alors, je ne sais pas si Marc, en choisissant ce thème, bonjour Marc. Alors, Marc, voilà. comme on dit toujours, le temps qu'on l'équipe d'un micro. Marc, je ne sais pas si vous aviez décidé de proposer ce thème, l'amitié franco-suisse, il y avait comme ça derrière une certaine rage ou une certaine revendication en choisissant ce thème. Pourquoi ?
Non, alors pas du tout, mais ça m'est venu comme ça, je ne peux même pas dire pourquoi, mais on m'a demandé un thème et c'est ce qui est venu. Alors, c'est vrai que je suis français. Je travaille en Suisse, ici à Malévo, en tant qu'infirmier depuis... Enfin, c'est ma 14e année. Mais c'est un non-thème, c'est un non-sujet. C'est parce qu'il y a de l'amitié entre les Français et les Suisses, mais il y a beaucoup aussi de chamaillerie et de taquinerie.
Alors, je ne sais pas si c'est un non-thème, parce que moi, depuis que je suis arrivé dans le Valais, je n'ai jamais entendu autant de dissidents entre les Valaisans et les Français. Je trouve même les Valaisans très durs avec les Français.
Oui, mais enfin, moi, je le vis enfin, en tant que Français, travaillant en Suisse, je le vis comme des taquineries, des chamailleries... entre des gens qui s'aiment en fait beaucoup. Il y a beaucoup de familles, je crois, françaises qui ont fui la France au moment de la Révolution française 1789 et qui ont passé la frontière pour fuir les persécutions. Des familles sûrement catholiques, donc. Et il y a beaucoup de noms ici dans le Valais qui sont les mêmes que de l'autre côté, hein, des Beaux, des Vulliers, des plein de noms, on a les mêmes. Donc, c'est des familles valaisannes d'origine française. Et je pense que les Valaisans sont beaucoup plus proches que des Hauts-Savoyards, que des Zurichois ou même des Genevois. Donc, mais on aime bien se taquiner. Et d'ailleurs, des fois, moi, en tant qu'infirmier, des patients, ils sont surpris que je sois français. Et il y en a même des fois qui me disent « Oh, c'est l'infirmier, le Frouze, là, qui m'a donné hier. » Voilà, et quand ils apprennent que je suis français aussi, des fois, ils sont un peu gênés. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis suisses. Et ici, dans le pavillon dans lequel je travaille, il y a presque autant de Français que de Suisses. Voilà, donc il y a une très belle amitié entre tout le monde. Mais c'est vrai qu'on aime bien se chamailler et... Et moi aussi, j'aime bien les chamailler. Par exemple, la dernière fois, je disais, mais j'aime beaucoup Federer. Et puis, je dis, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il n'est pas français.
Alors, moi, je voulais juste réagir par rapport à...
je voulais juste réagir par rapport à deux choses d'histoire. C'est vrai qu'il y a eu la Saint-Barthélemy et donc Calvin et l'équipe qui sont débarqués à Genève. Ça, je ne connais pas tout en détail, mais en fait, c'est ce qui nous a amené l'horlogerie. Sinon, par contre, plus local, je viens de la commune de Vouvry. Nous, on est frontaliers, hyper frontaliers avec Abondance et Bise derrière. D'ailleurs, on se partage nos montagnes. Mais depuis gamin, nous, on faisait des échanges à pied. Donc, la commune se déplaçait, on montait au col du Jon, on redescendait de l'autre côté, on allait manger avec nos amis français. Et c'était aussi comme des frères, parce que tout le Val d'Abondance correspond totalement aux vallées, en tout cas, qu'on a dans le Chablais. D'ailleurs, notre Chablais fait partie du Chablais vaudois, valaisan, fait partie de la même passerelle que la française. Donc voilà. Mais moi, je voulais demander autour de la table, qui a des amis en France ?
Ah bah c'est bien que vous posiez la question, parce que je vous sentais à fond, avoir plus de... Je vais vous laisser mener les débats, je vois qu'il y a du sujet.
Alors, Usha.
Moi je voulais dire aussi parce qu'en fait, le Valais, il est un des derniers cantons qui est suisse, parce qu'avant, il avait été annexé par la France, en tant que département du Simplon, justement, parce que... Il y a l'école qui sont très importants et qui sont très stratégiques justement pour passer par les montagnes. Et du coup, en 1815, le Valais est rentré dans la Confédération. Et du coup, ils sont suisses. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que on a peut-être des cultures différentes, c'est vrai, on parle la même langue. Par contre, j'ai beaucoup entendu parler de clichés sur le français qui viennent travailler en Suisse, etc. Et que j'aime pas du tout. Parce que, par exemple, ma meilleure amie, que j'ai connue au collège, bon, ses parents sont bretons, ils sont venus en Suisse. Et Elle a grandi en Suisse, justement, parce qu'en Suisse, on n'a pas le droit du sol. C'est justement tant d'années qu'on est à résidence en Suisse, qu'on a le droit à la nationalité suisse. Elle se dit française, mais c'est ma meilleure amie, je l'adore. J'ai une amie, justement, qui vient justement d'opposer le breton du plateau de Larzac, justement. Et justement, c'est dans le sud.
Dans le Morbihan.
Ouais, je sais pas vraiment. Mmh. C'est là où on fait le fromage. Comment dire?
Ah,
le...
mais du sud de la France, vous dites.
Du sud de la France. Ah. Il y a Orange, oui, du sud de la France, Avignon. Mmh. Et justement, c'est une dame qui était venue justement il y a longtemps travailler dans des écoles Steiner, justement. Je l'ai connue comme ça, je l'adorais. Elle est partie. Elle a le même âge que mon papa. Mais je l'adore. Mmh.
Je crois qu'il y a Suzanne, elle a envie de réagir. Ah, Suzanne, tenez.
Ça me tue. Parce que moi, je suis valaisanne, hein, figurez-vous. Depuis 40 ans. Donc, laissez parler aussi les valaisans.
Bah, vous avez la parole.
Mmh. Ici, on est en Valais. Et moi, je suis suisse. Donc, j'ai le droit à la parole. Et les Français, monsieur l'infirmier, est français, mais il est infirmier. Il est employé ici. Et on lui doit le respect. Parce que peu importe sa nationalité, mais il est ici. Il soigne les gens, il vous soigne. Donc,
Nicole, je crois que vous avez envie de réagir.
Oui, j'aimerais bien réagir. Moi, je suis aussi valaisanne, mais je suis valaisanne du haut. Ça veut dire que je parle le indo-germain, je parle un très vieux allemand et le français, là, que vous attendez bien. Et en fait, par exemple, quand on regarde le château de Tourbillon, il était construit en 1291 de Boniface de Chaland, qui était dans le temps, en fait, savoyard. Mm-hmm. Alors, l'histoire du Valais est très, très liée. Mais dans le temps, il faut faire la différence entre quelquefois, quand on parle de la France, un Parisien n'est pas un Corse. Le Corse, on critique souvent le Corse parce qu'il est corsé et le Valaisan, il va très bien avec le Corse parce qu'on est corsé à notre façon. Et il y a aussi une histoire, mais si jamais vous me corrigez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était vers Saint-Jean-Golf, il y avait les Suisses qui ont ouvert la frontière pour que les Français de l'autre côté, leurs amis, pouvaient rentrer et être sains et saufs. Il y avait plein d'autres... Autre histoire, mais il y a une statue, il me semble, à Saint-Jean-Golf.
Ouais, il y a un curé, en fait, qui a suivi.
Au Bouvray,
ouais, à Saint-Jean-Golf, c'est juste.
Oui. Alors, moi, je trouve, en fait, il y a des Suisses et des Suisses. Par exemple, en étant valaisanne, j'attends aussi souvent le racisme, que les valaisans critiquent les ovalaisans comme des arriérés.
Et vice-versa.
Et vice-versa, voilà. Alors, je pense que la France, il faut aussi faire attention. Un Parisien n'est pas un Corse. Mmh. Un Breton n'est pas un... La nature, elle nous forge beaucoup, la géographie
comme Nicole, comme un Valaisan n'est pas un Genevois.
Voilà.
C'est
l'altérité.
Alors,
c'est ça. Alors que la deuxième capitale du Valais, c'est Genève. Hein, donc.
C'est vrai.
arrêtez,
c'est vrai. Il y a plus que 40 000 Valaisans là-bas.
Parler.
Merci, Suzanne.
Oui. Bien sûr. Parler. Allez, Gaëlle.
Je suis valaisanne et je vis originaire de Dakar.
De Dakar.
Et j'ai été adoptée.
D'accord. Mais Dakar sous la colonie française, du coup.
C'est ça.
Voilà. Mais vos parents étaient d'origine française ?
Non, suisse.
Oh, suisse. Ok.
Et papa est suisse et maman est antillaise.
Mais je voulais demander à Suzanne, est-ce que vous avez des amis en France ?
Moi, non, j'ai des amis, les parents.
Mais je viens de me faire un ami.
Ah, ok. Dans quelle région vient-il ?
Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Marc, et qui est ici présent, et qui est très gentil, et qui est un très bon soignant.
Bah, c'est très sympa. Merci beaucoup de votre témoignage. Je vais passer le micro à Jimmy.
Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'amitié franco-suisse n'a pas laissé couler beaucoup d'encre, mais presque, en tout cas pas comme nos poèmes qui ont été très joliment écrits. Merci au chat. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, l'amitié franco-suisse, elle va en fonction de son cœur et de ce qu'on y met. Hein. On peut critiquer aussi bien les Suisses que les Français. Hein. Personne n'est meilleur, personne n'est égaux. L'important, c'est comment trouver un lien pour se rencontrer, pour s'accepter malgré nos différences. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à nos participants du jour et un grand merci à notre duo à la technique qui était présent aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade. On se quitte en musique avec une chanson de Youssi qui s'intitule Blue Mountain.